on voulait remercier la médiathèque de Tournefeuille de nous accueillir pour cette présentation. Et puis, donc, au travers de cette présentation, on va essayer un petit peu de vous montrer ce qu'ont les logiciels libres, quels sont les multiples intérêts des logiciels libres, d'où ils viennent, qui les fait, pourquoi, etc., etc. Donc, pourquoi parler de logiciels libres ? Alors aujourd'hui, vous avez très certainement chez vous tous un ordinateur, soit chez vous, soit au travail, soit aux deux, et vous l'utilisez soit quotidiennement, soit au moins une fois par semaine pour envoyer des courriers électroniques, pour dialoguer sur Internet, pour chercher des informations, etc. Bref, l'informatique est maintenant dans notre vie quotidienne à tous, soit parce que nous on l'utilise nous-mêmes, soit parce que l'administration ou l'entreprise avec laquelle on travaille utilise de l'informatique. Donc aujourd'hui, cette informatique, cette technologie, elle est de plus en plus au cœur de la société. Et donc c'est important de savoir ce qu'il y a derrière, qui maîtrise ces informations, qui maîtrise nos données personnelles, comment est-ce que ça fonctionne derrière. Et le logiciel libre, c'est un des éléments de la maîtrise de la technologie. Donc on va voir qu'est-ce que c'est, etc. au fil de la présentation, mais c'est un peu dans ce contexte-là. On est pendant la fête de l'Internet. On va voir aussi quelles sont les relations entre logiciels libres et Internet. Et c'est un peu dans ce contexte général que se situe la présentation.
Donc déjà, parce qu'on parle de logiciel libre, donc déjà peut-être spécifier un peu ce qu'est un logiciel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisateur, quand il utilise un ordinateur, en fait, il a besoin non seulement de l'ordinateur lui-même, le matériel, mais d'avoir des applications, c'est-à-dire par exemple le traitement de texte, un jeu, n'importe quoi. Et entre les deux, il va y avoir besoin de ce qu'on appelle le système d'exploitation, donc qui va gérer la manière dont l'application va tourner sur le matériel. Donc il y a vraiment la partie logicielle est absolument indispensable, c'est-à-dire généralement on va acheter un ordinateur, on va dans le magasin, on ramène quelque chose de physique, mais avec il y a forcément du logiciel, sinon l'ordinateur il démarrera pas, enfin il démarrera, mais le ventilateur il tourne, mais on pourra rien en faire. Donc ce qui se passe, c'est que généralement quand on achète un ordinateur, le logiciel est livré avec, on s'en rend pas forcément compte, mais il y en a un. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on n'a pas fait ce choix de, on achète un ordinateur, on se retrouve avec du logiciel qu'on n'a pas forcément choisi, mais on aurait pu le choisir, on aurait pu en mettre un autre que celui qu'on vous a donné en vendant l'ordinateur. Donc il faut bien être conscient de ça, que l'ordinateur il a besoin de logiciel pour tourner, et que ce logiciel-là il peut être vraiment varié, et qu'il y en a, il y a une certaine diversité, et pas forcément celui que tout le monde connaît.
Ce que relève Gaël, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est, tu as parlé de matériel, de biens physiques. Et il y a une grosse différence entre ce qui est matériel, bien physique, qu'on ne peut pas reproduire à l'infini ou difficilement, ça a un coût. Alors que le logiciel, c'est quelque chose de purement immatériel qu'on peut reproduire à coût quasi nul. On peut le reproduire à l'infini pour quasiment rien. Donc il y a une distinction très importante à faire entre le matériel, cet élément physique qu'on ne peut pas reproduire facilement, et le logiciel, cet élément physique qui est difficile à produire, non, cet élément non physique qui est difficile à produire pour la première copie, mais ensuite toutes les copies sont gratuites ou quasiment. On va poursuivre sur quelques notions de un tout petit peu de technique qui vont être nécessaires pour comprendre la suite de la présentation. Ça va être les deux seuls transparents un petit peu techniques. Et c'est là un élément fondamental pour comprendre la suite de la présentation. Alors en fait, là, on va parler un petit peu du processus d'écriture d'un logiciel. Donc le logiciel, c'est quelque chose qui est écrit par un programmeur, c'est un métier. Et ce programmeur, pour écrire son logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le logiciel, afficher des fenêtres, afficher du texte, télécharger des choses sur Internet, etc. Ce que fait le logiciel, le programmeur l'exprime au travers d'instructions dans un certain langage et il va programmer, comme ça, le comportement de son logiciel. Et le résultat de son travail, c'est ce qu'on appelle le code source, c'est-à-dire la description des différentes opérations que réalise le logiciel. C'est là-dessus qu'un programmeur travaille, modifie, améliore, rajoute des fonctionnalités, etc. C'est la forme utile pour le programmeur. Malheureusement, l'ordinateur, il n'est pas capable d'utiliser cette version réalisée par le programmeur directement. Il y a une phase qui permet de transformer ce code écrit par le programmeur en un code binaire compréhensible par la machine. Donc ce code-là va pouvoir être exécuté par votre ordinateur et c'est lui qui va donner vie à l'application au logiciel. Mais ce code-là, pour un programmeur, c'est un petit peu difficile d'en tirer quelque chose, voire quasiment impossible. En tout cas, c'est pas facile de savoir qu'est-ce que ça fait. C'est impossible de rajouter des éléments, de corriger des problèmes, des choses comme ça. Donc c'est une forme qu'on ne peut pas modifier et qui est très opaque, qui est utile quasiment pour la machine. Le programmeur, lui, ne va travailler qu'à partir du code source. Alors ce qui se passe, c'est que avec la plupart des logiciels qui sont vendus dans le commerce, vous disposez uniquement de la version binaire. Cette forme quasi inerte que vous pouvez juste lancer, mais avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Et on va voir que le logiciel libre propose un petit peu plus que ça.
On peut faire la recette de cuisine en parallèle. Donc il y a un parallèle qu'on fait assez souvent avec la recette de cuisine. On imagine que c'est la recette d'un gâteau au chocolat, le code source. D'accord ? Et à partir de cette recette, on fabrique le gâteau. Le gâteau, il est là. Ça correspond au code binaire. Si vous mangez le gâteau, vous trouvez qu'il est trop sucré, par exemple, vous allez avoir du mal à enlever le sucre du gâteau. D'accord ? Par contre, vous allez pouvoir prendre la recette et voir qu'il y avait 500 grammes de sucre et que vous allez en mettre que 200 grammes. Et vous allez refaire un gâteau qui vous correspond. C'est exactement la même chose pour un logiciel. Un logiciel, si on veut le modifier, c'est très difficile de le modifier la version binaire. Par contre, on peut repartir du code source, modifier des choses et refaire un code binaire qui vous convient. Donc c'est exactement comme une recette, quoi. C'est, quand on veut modifier les choses, il faut avoir le code source. Avec le binaire, on ne peut pas faire grand-chose.
Ça va pour cette notion de code source, code binaire. N'hésitez pas à nous interrompre au cours de la discussion pour poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Donc justement, je parlais de ces logiciels qui sont couramment vendus dans le commerce ou en tout cas livrés avec les ordinateurs vendus en grande surface. Et les logiciels que vous achetez, ils sont soumis à une licence d'utilisation, c'est-à-dire un texte qui définit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire avec ce logiciel. Et en fait, ces licences, des logiciels que vous achetez couramment, elles sont assez restrictives. Elles limitent pas mal la liberté de l'utilisateur, puisque en gros, la seule liberté qui vous est donnée, c'est d'exécuter le logiciel que vous avez acheté sur un ordinateur précisément. Vous n'avez pas le droit de revendre ce logiciel si vous ne l'utilisez plus. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser à la fois sur votre ordinateur et l'ordinateur de votre frère ou de votre mère. Bref, c'est sur un seul ordinateur et vous n'avez pas le droit de le revendre. Donc c'est quand même des libertés assez limitées.
À l'inverse, les logiciels libres, ils sont là pour donner un maximum de garantie, un maximum de liberté aux utilisateurs. Donc ça va très très loin, c'est-à-dire que non seulement vous avez la liberté évidemment d'exécuter le programme, de l'utiliser, mais sachant que c'est déjà cette simple liberté là va beaucoup plus loin que le logiciel classique, comme disait Thomas, c'est-à-dire que là on a la liberté de l'utiliser autant de fois qu'on veut, sur autant de machines qu'on veut, pour quel usage qu'on veut. On n'a pas le droit d'imposer des restrictions, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce logiciel pour telle chose. Donc ça, c'est une liberté déjà qui est plus grande que celle qu'on peut avoir dans le logiciel propriétaire, liberté d'exécuter. Ensuite, on a la liberté d'étudier le code et même de le modifier. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Classiquement, on achète une voiture, on veut faire du tuning, on peut le faire. Sur un logiciel, généralement, c'est plus difficile. Donc les logiciels libres, on a le droit de faire ça. On a le droit de modifier le logiciel quand on trouve qu'il n'est pas assez bien ou qu'il ne convient pas à ce qu'on veut faire. Et liberté d'étudier aussi, c'est très important de savoir comment ça marche. Et c'est extrêmement intéressant.
Surtout au regard de cette problématique justement de maîtrise technologique, de prise d'importance des technologies dans nos vies quotidiennes, etc.
En termes de sécurité, étudier quels sont les problèmes qu'il peut y avoir potentiellement, c'est toujours intéressant à savoir. On a aussi la liberté de le copier autant de fois qu'on veut. Il n'y a absolument aucune limitation là-dessus, au contraire, c'est encouragé. Et on a tout à fait le droit de redistribuer les modifications qu'on a effectuées. Donc, c'est-à-dire que cette liberté de copier et de redistribuer, on peut en faire profiter qui on veut, en fait, sa famille, ses amis, même des inconnus. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a vraiment le droit de faire ça. Donc c'est vraiment le logiciel libre est défini par ces quatre libertés principales. Et c'est ça qui définit vraiment le logiciel libre. Et alors on voit que bon, exécuter ça va encore, mais pour pouvoir étudier le programme ou le modifier, on est obligé d'avoir le code source, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une des implications fortes de ces quatre libertés, c'est d'avoir la disponibilité du code source.
Là tout de suite, vous avez pu imaginer certainement un certain nombre d'intérêts. Exécuter le programme, bah, pour vous c'est et le copier, c'est pratique. On peut en général le télécharger pour un coût modique sur Internet. Vous pouvez le copier sur autant d'ordinateurs que vous voulez. Dans une école, tout le monde peut en mettre sur tous les ordinateurs, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un premier intérêt du logiciel libre, on va voir. On va voir tout, un peu tous les intérêts. On va voir que même si étudier, modifier le programme, redistribuer les modifications, ça n'a pas d'intérêt direct pour la plupart des gens, puisque la plupart des gens ne sont pas programmeurs en informatique, donc n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. Mais en réalité, ça va avoir un certain nombre d'intérêts indirects pour l'ensemble des utilisateurs. Et on va le voir au fur et à mesure de la discussion. Donc pour résumer, les licences de logiciels propriétaires donnent très peu de liberté. Et au contraire, les licences des logiciels libres, elles garantissent un grand nombre de libertés.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour pouvoir garantir ces libertés derrière, forcément, il y a au moins une petite contrainte. Alors, cette contrainte-là, elle est simple, hein, il s'agit de ne pas restreindre les libertés des autres. Et ça veut dire, en gros, que les libertés qu'on a acquises, là, les quatre libertés dont on a parlé tout à l'heure qu'on a acquises, on est obligé de les laisser en fait aux autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'approprier la liberté de modifier le programme, par exemple, et de distribuer et d'interdire aux autres de modifier le programme qu'on a soi-même modifié. Donc c'est la notion de ce qu'on appelle de copyleft. C'est-à-dire que on s'appuie véritablement sur le droit d'auteur. C'est pas la notion de je me fiche du droit d'auteur, c'est du domaine public, je m'en occupe pas. Non, au contraire. En tant qu'auteur, parce qu'on est auteur du logiciel, quand on écrit un logiciel libre, on est auteur, on a son nom dans le logiciel, on a le droit de voir son nom attribué au logiciel, et en tant qu'auteur, on fait le choix de laisser les libertés aux autres. Donc c'est un choix qu'on a fait en tant qu'auteur, et donc on est vraiment, là c'est une vraie utilisation du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on choisit sa licence. Et cette licence copyleft, en fait, l'idée c'est de dire qu'une fois qu'on a mis le logiciel sous cette licence, elle doit y rester. C'est-à-dire que les autres, ils ont le droit de faire des modifications, ils ont le droit de redistribuer, mais s'ils redistribuent, ils doivent redistribuer sous les mêmes termes.
Pour un peu clarifier ce point, le copyleft, on vous propose d'écouter un petit extrait d'une conférence de Jean-Pierre Archambault, qui est une personne active dans l'éducation nationale au niveau du logiciel libre. Alors, je ne connais pas exactement son poste, mais c'est une personne de l'éducation nationale.
CNDP, Centre National de Documentation.
Voilà, c'est ça. Okay, alors, je vais voir si au niveau son, ça va bien marcher. Ah, le son, ça. Bon, tant pis, il n'y a pas d'image.
Ne sont accordés à quelqu'un que si lui-même fait bénéficier aux autres de ce dont il a bénéficié. Autrement dit, si à partir d'un logiciel libre, quelqu'un fait on appelle une œuvre dérivée, c'est-à-dire un logiciel dérivé du premier, il est obligé de le mettre à la disposition des autres en donnant le code source, en permettant de le modifier, en permettant de le copier et le diffuser.
Voilà. Cette fois, le logiciel libre avec un certain nombre d'autres choses, on va essayer de mettre un petit peu, de clarifier bien qu'est-ce que c'est le logiciel libre. Alors d'abord, le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Alors, effectivement, étant donné qu'on peut le copier, à partir du moment où il va être sur Internet, il va être facile de le récupérer, et ce, gratuitement, mis à part le coût de votre ordinateur, de l'abonnement Internet. La récupération du logiciel proprement dite va être gratuite, effectivement, pour la plupart des logiciels libres. Mais le fait qu'il soit gratuit, ça n'empêche pas de le vendre. La licence de logiciel libre, vous avez vu, il y a un certain nombre de libertés, et à aucun moment il est dit c'est interdit de le vendre. Donc une société, une personne est tout à fait autorisée à vendre du logiciel libre. Et si quelqu'un a acheté du logiciel libre, rien ne l'empêche de le donner à quelqu'un d'autre. Donc on peut le vendre, mais il faut trouver un modèle qui ajoute quelque chose au simple téléchargement du logiciel gratuit sur Internet. Ça, c'est les problèmes du modèle économique du logiciel libre. Ça sort un petit peu du cadre de la présentation, mais c'est autorisé de vendre du logiciel. Et il y a des entreprises qui travaillent avec des logiciels libres et qui ont un modèle économique autour du logiciel libre. Ça, c'est la première chose. Pas forcément gratuit. Donc, logiciel libre, c'est pas anti-commercial. C'est quelque chose qu'on peut vendre, qui peut devenir un produit commercial. Première chose. Deuxième chose, pas libre de droit. C'est là que Gaël en a parlé au transparent précédent. On lit parfois dans la presse « libre de droit » et c'est un petit peu des journalistes qui ont fourché, qui ont rajouté « de droit » à « libre ». Non, c'est « logiciel libre » tout court. Libre de droit, c'est quelque chose de très précis juridiquement. Ça veut dire que l'auteur a abandonné ses droits sur l'œuvre. En l'occurrence, un logiciel. Et qu'à ce moment-là, on peut faire n'importe quoi. C'est pas le cas. Ici, un logiciel libre est soumis au droit d'auteur, sauf qu'au lieu de laisser le droit d'auteur
par défaut, disons, ce qui est prévu dans le code de la propriété intellectuelle, qui n'autorise pas de copie, qui n'autorise pas d'utilisation, etc., etc. L'auteur a décidé d'autoriser, de garantir un certain nombre de libertés, qu'on a vu avant, ces quatre libertés, exécuter, étudier, copier, redistribuer les modifications. Ces quatre libertés-là, il a décidé de les garantir en utilisant souvent une licence de type copyleft qui va faire que ces libertés seront garanties, seront perpétuées à l'infini. Donc là, l'auteur, en son âme et conscience, choisit de distribuer son logiciel sous cette forme-là. Il reste auteur de ce logiciel. Les licences également, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais imposent de conserver la liste des contributeurs. Donc l'auteur sera toujours nommé. Donc il reste propriétaire de son œuvre. Seulement, il a donné un certain nombre de droits à l'ensemble des utilisateurs. Donc le logiciel n'est pas libre de droit.
Alors on confond aussi souvent le logiciel libre avec les freeware ou les shareware. Alors c'est absolument pas la même chose, pour des raisons fondamentales. Donc comme on a dit tout à l'heure, un logiciel propriétaire, on peut l'utiliser et encore sous certaines conditions. Donc on peut faire que ça. Un shareware, l'idée c'est que on peut l'utiliser de manière un peu plus large pendant une période d'essai généralement. Mais ensuite, on est censé l'acheter, normalement. Ensuite, il y a des programmeurs qui décident de ne pas vendre leur logiciel, de le laisser accessible de manière gratuite en téléchargement. C'est ce qu'on appelle un freeware. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce freeware, donc on a le droit de l'utiliser gratuitement. On peut normalement le redistribuer, vu que de toute façon, l'auteur, il gagnerait, enfin, il n'a pas forcément, vu que c'est gratuit, il ne perd pas d'argent si quelqu'un d'autre le distribue à sa place. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous ces shareware et ces freeware, on n'a absolument pas accès au code source, on n'a absolument pas le droit de modifier le logiciel, on n'a absolument pas le droit de l'étudier. Et c'est là que la différence fondamentale avec le logiciel libre, ce que le logiciel nous donnera en plus, c'est l'accès au code source, la possibilité de modifier le logiciel, la possibilité de l'étudier et de redistribuer les modifications. Voilà la différence essentielle. Donc il ne faut surtout pas confondre un logiciel libre avec un logiciel, un freeware par exemple, parce que souvent, effectivement, c'est gratuit, donc on met tout dans la même catégorie. Non. Pas du tout, il y a des notions vraiment fondamentales. Un freeware, c'est la notion de gratuité, le logiciel libre, c'est la notion de liberté. Donc un logiciel libre n'est pas forcément gratuit, et un logiciel gratuit n'est pas forcément libre.
Pour clarifier. Donc un peu d'histoire. On essaie de voir d'où ça vient ce mouvement du logiciel libre, qui a décidé de commencer les logiciels libres et tout ça. On va revenir un petit peu dans le temps, dans l'histoire de l'informatique, que bon, j'ai pas beaucoup connu personnellement, vu mon jeune âge, mais bon, c'est ce que relatent les ouvrages. En gros, avant les années 80, tous les ordinateurs étaient différents, tous les constructeurs avaient leur propre modèle d'ordinateur qui ne fonctionnait pas ensemble, et donc chaque logiciel était adapté à chaque ordinateur, et donc quand une entreprise ou une université, parce qu'à l'époque c'était inaccessible aux particuliers, quand une entreprise ou une université achetait un ordinateur, le constructeur livrait avec cet ordinateur le logiciel qui allait bien pour que ça marche. Donc le logiciel finalement c'était... quelque chose qui venait directement avec l'ordinateur, c'était pas là qu'était la valeur ajoutée. On achetait vraiment du matériel, le logiciel c'était quelque chose d'accessoire juste pour que ça marche. Et comme c'était un petit peu accessoire, en gros le code source était disponible. Ça permettait aux gens de collaborer, aux utilisateurs de s'échanger des améliorations, des corrections, des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Disons que c'était pas, il n'y avait pas d'industrie, l'industrie de l'informatique n'était pas centrée autour du logiciel mais bien autour de la fourniture de matériel. Le logiciel ne venant que comme outil pour utiliser le matériel. En 81, en gros, il y a quelque chose qui va un petit peu révolutionner ce monde de l'informatique, c'est la création du PC, Personal Computer, donc l'ordinateur personnel. Donc accessible à tout à chacun, c'est un petit peu cher à l'origine, mais disons que ça commençait à être accessible au plus grand nombre de personnes. C'était un ordinateur standardisé, donc il était possible de faire des logiciels qui marchaient sur un grand nombre d'ordinateurs, même s'ils ne provenaient pas du même constructeur. Et en particulier, le PC était livré avec MS-DOS, qui est un système d'exploitation rudimentaire créé par la société Microsoft, et livré sans son code source. Donc là, c'est sans doute pas le premier logiciel propriétaire, mais disons que ce qui a permis au logiciel propriétaire de démarrer, c'est cette standardisation un petit peu des ordinateurs et donc la création d'un marché du logiciel, à proprement parler.
Hein, parce qu'on a cité Microsoft, mais non, en fait, c'est IBM qui a créé le PC. Et donc, avait besoin de vendre le logiciel avec son matériel. Et comme plutôt que de le faire en interne, il a sous-traité à une société, il lui a demandé est-ce que tu peux pas me faire un logiciel qui va aller bien. Et Microsoft a proposé donc le MS-DOS. Et Microsoft a surtout proposé de récupérer un certain pourcentage de vendre la machine. Donc à chaque machine vendue, récupérer de l'argent. Plutôt que de. IBM aurait très bien pu négocier avec Microsoft, s'étend le forfait, et puis nous après on en fait ce qu'on veut du soft. Non. Et Microsoft a très très bien négocié d'avoir une fraction de chaque PC. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Que Microsoft a fait fortune en fait, au départ. C'était une idée assez intelligente, mais assez novatrice par rapport à ce qui se faisait avant.
Donc ces premiers logiciels propriétaires, ils étaient livrés donc sans leur code source. Donc évidemment, on ne pouvait pas les modifier, on ne pouvait pas les améliorer, etc. etc. Et il y a un chercheur aux États-Unis qui s'est retrouvé un jour face à un de ces logiciels propriétaires, il s'est retrouvé face à un problème qu'en tant que chercheur en informatique, il aurait pu corriger de lui-même. Mais là, étant donné qu'il n'avait pas le code source, il ne pouvait pas corriger lui-même le problème. Et là, pour lui, ça a été un petit peu le déclic de se dire, bah là, il y a un vrai problème, les utilisateurs, ils ne peuvent plus collaborer, plus travailler ensemble, ils ne peuvent plus s'échanger leur logiciel. Et pour lui, ça a été il a réagi à ce changement. Et donc, sa réaction, ça a été de créer un projet qui s'appelle GNU, GNU. Oui. De signer un accord inacceptable.
Voilà. Et de refiler leur travail aux auteurs de logiciels.
Voilà. Donc, effectivement, quand on dit que le code source n'est pas disponible, il peut être disponible en signant des contrats de non-divulgation, etc. Donc des contrats très très restrictifs qui en réalité effectivement vont vous permettre de faire vos modifications, mais ne vont pas permettre de collaborer à grande échelle, etc. etc. Donc nous on appelle divulgation du code source et réellement tout le monde y a accès sans liberté. Voilà. Mais c'est ce qu'on va voir au fil de la présentation. Donc le déclic de Richard Stallman, puisque vous l'avez cité, ça a été de créer un projet, GNU, dont le but était de créer un système d'exploitation, là au sens large, c'est-à-dire pas juste le logiciel de base, mais l'ensemble de logiciels permettant d'utiliser un ordinateur, mais qui soit libre, c'est-à-dire qui réponde aux critères dont on a parlé avant. Pour soutenir ce projet GNU, il crée une année plus tard, en 1984, la Free Software Foundation, la Fondation pour le logiciel libre, qui est une fondation destinée à soutenir ce projet-là financièrement, matériellement, etc. Et surtout, certainement plus important, et de la licence GPL. La licence GPL, c'est justement ce texte qui garantit un certain nombre de libertés qu'on a vues et qui met en place le mécanisme de copyleft qui permet aux libertés de se perpétuer dans le temps. Alors il faut savoir que la licence GPL, ce n'est pas la seule licence de logiciel libre, il en existe un grand nombre, mais c'est celle qui couvre plus de la moitié, voire les deux tiers des logiciels libres qui existent, donc c'est une licence très importante qui est fondatrice du mouvement du logiciel libre. Donc à nouveau, ici, on va écouter un extrait d'une conférence de Jean-Pierre Archambault. Il met un peu en perspective tout ça d'un point de vue historique, et c'est assez intéressant, parce que là on voit, en 84, en gros, Microsoft, c'était une société toute jeune, qui existait encore, qui n'était pas très établie. Windows n'existait pas encore. C'est sorti en 85, je crois, la première version, quelque chose comme ça. Bref, c'est pour dire que le logiciel libre, ce n'est pas une réaction au monopole de Microsoft. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu en 98 quand Microsoft avait déjà une position monopolistique sur le marché des ordinateurs personnels. Non, non, c'est bien avant que Microsoft devienne une entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est pas une réaction d'anti-Microsoft ou quelque chose comme ça, c'est bien une réaction au logiciel propriétaire et à ce modèle de division des utilisateurs, de pas de partage des connaissances. Voilà, on va écouter le petit extrait.
Ce que je viens de dire là, a priori c'est quelque chose qui est un peu surprenant. Alors même si j'ai justifié qu'on pouvait avoir un modèle en donnant quelque chose. Mais donc ça semble bizarre comme démarche. Or, le logiciel libre, c'est du logiciel, c'est une activité scientifique. Or, en fait, la science, depuis 25 siècles, hein, par exemple, Pythagore, c'est intéressant, c'est vieux, hein, c'est, il y a 25 siècles, il interdisait à ses disciples de divulguer les démonstrations. Mais depuis, je veux dire, le moteur de la science, c'est d'être ouverte. Donc ce qui est assez extraordinaire, si on y réfléchit bien, c'est que la démarche du logiciel libre, elle peut être perçue comme étant un peu nouvelle, un peu intrigante, alors que ce qui est nouveau, hein, à l'échelle historique, c'est la démarche propriétaire qui est apparue en informatique à la fin des années 70 et début des années 80, on pourra y revenir, au moment où il y a eu la possibilité d'avoir un marché de l'informatique familiale, l'informatique grand public. Donc c'est assez surprenant, ces perceptions qu'on a du nouveau et de ce qui n'est pas nouveau.
Voilà, pour resituer un petit peu dans le contexte plus large, effectivement, le logiciel libre, c'est pas ça qui est nouveau, c'est quelque chose d'assez naturel que de vouloir partager le progrès de la science. C'est plutôt le logiciel propriétaire qui est le changement dans cette logique un peu naturelle.
Donc, juste pour revenir sur Richard Stallman, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de lui, et curieusement, on n'a pas parlé d'Inus Torvald, si vous connaissez ce nom-là. Parce que Richard Stallman, ce n'est pas l'inventeur du logiciel libre au sens strict, il n'y a pas un inventeur, mais c'est lui vraiment le fondateur de ce mouvement-là. C'est lui qui a lancé ce projet GNU. Ce projet GNU, il y a énormément de choses qu'on retrouve dans les distributions Linux aujourd'hui, les distributions GNU Linux. Et il a vraiment fondé, créé cette licence qui a permis de formaliser en fait les choses. Et son vrai apport, c'est ça, ça a été de formaliser le logiciel libre.
Effectivement, il y avait, avant 80, il y avait un échange de ces codes sources, de ces logiciels. Donc si vous voulez, dans les faits, le logiciel libre existait, cette diffusion existait. Ce qui vraiment est fondateur, c'est ça, cette licence, ce texte et ce projet qui se dit, moi, le but de ce projet, avant tout, c'est de fournir des logiciels libres. Voilà, donc c'est effectivement la formalisation qui est importante ici. Voilà. Donc le logiciel libre, c'est surtout une éthique. C'est se demander si on préfère utiliser des logiciels qui sont plutôt conçus dans une optique de fermeture, de secret, ou plutôt des logiciels qui sont conçus dans une optique d'ouverture, de collaboration, de partage de la connaissance, etc. Parce que le logiciel, comme Jean-Pierre Archambault l'a expliqué dans l'extrait audio qu'on vient d'écouter, c'est de la connaissance, c'est en quelque sorte des formules mathématiques mises bout à bout. Et donc c'est des choses qu'on améliore, il y a des innovations, des améliorations, etc. etc. Et donc c'est une forme de connaissance. Et donc à ce titre, on peut penser qu'il faut qu'elle soit partagée, accessible à tous, au prix le moins élevé possible, etc. etc. Donc avec le logiciel libre, c'est quand même assez sympathique, parce que le code source étant disponible, on peut l'améliorer, on peut voir comment ça fonctionne, on peut s'approprier cette connaissance. Ça favorise l'innovation puisqu'on peut réutiliser des morceaux de logiciels qui existent déjà et partir de là pour se hisser sur les épaules des géants, pour construire quelque chose de nouveau à partir de l'existant sans avoir à tout refaire entièrement. Donc en termes de partage de la connaissance, d'amélioration de la connaissance informatique, c'est intéressant. Cette disponibilité du code source qui permet à n'importe qui d'adapter le logiciel, ben, ça fait que au bout d'un moment, on a un logiciel qui devient de plus en plus proche des besoins des gens, puisque c'est les gens eux-mêmes qui peuvent le modifier ou le faire modifier par quelqu'un d'autre. Et puis c'est l'ouverture, forcément, puisque le fonctionnement est transparent, le code source est disponible, le fonctionnement est transparent. Et donc, c'est des logiciels complètement ouverts qu'on peut améliorer dans toutes les directions dont on a envie. Personne ne guide dans quelle direction il faut utiliser le logiciel. On peut faire ce qu'on veut. Et en particulier, un point intéressant, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le débat actuel concernant les droits d'auteur, dont on va reparler un petit peu en fin de présentation, mais ce mot barbare, interopérabilité, a pas mal été au centre des débats. Alors, qu'est-ce que c'est l'interopérabilité ? C'est la capacité à deux systèmes qui, a priori, n'avaient pas été prévus pour fonctionner ensemble, de communiquer, de s'échanger des informations. Donc, l'interopérabilité, c'est ce qui vous permet de lire un fichier audio sur votre ordinateur, sur votre platine de salon, dans votre baladeur. Il y a quelque chose qui permet que vos données soient reconnues par tous ces équipements ou qui vous permet d'envoyer un courrier électronique à quelqu'un qui utilise un logiciel différent ou un système d'exploitation différent. Les logiciels libres ayant un code ouvert, ça favorise forcément l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à avoir des systèmes qui dialoguent entre eux, qui peuvent s'échanger des informations. On va y revenir sur la fin de la présentation sur ce sujet-là.
L'interopérabilité, ça va beaucoup plus loin que la simple compatibilité, parce qu'il peut y avoir deux constructeurs qui décident de faire des accords croisés pour avoir des systèmes compatibles. Mais ce n'est pas ouvert pour autant. Quelqu'un qui est à l'extérieur de ces deux sociétés, il ne peut pas avoir accès. L'interopérabilité, c'est vraiment n'importe qui doit pouvoir lire un mail, ouvrir un fichier de traitement de texte, etc. Donc ça vraiment s'appuie sur des formats ouverts. C'est-à-dire que n'importe qui peut, du jour au lendemain, non, mais coder un nouveau logiciel qui va pouvoir marcher avec les autres, sans avoir à passer des accords avec les autres. Donc l'intérêt du logiciel libre, on va essayer d'énumérer un peu les différents intérêts qu'on peut avoir selon qui on est. Donc on va commencer par le simple particulier en fait. Donc le logiciel libre, comme on disait un peu précédemment, c'est déjà une démarche en fait. Hein, je pense que c'est important, ça compte pas mal dans l'utilisation du logiciel libre de faire la démarche d'utiliser un système ouvert, quoi. Alors ça peut aussi avoir l'avantage de s'équiper légalement le logiciel. Alors effectivement, comme on a dit, on peut en acheter, mais enfin peu importe, si on le copie, c'est légal en fait, parce que l'auteur nous en a donné le droit. Et ça, finalement, c'est un argument qui peut servir, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'argument principal que nous on aimerait voir au logiciel libre, parce que c'est bien plus que ça, c'est plus une démarche, une éthique, mais c'est aussi un point d'entrée vers le logiciel libre, et ça peut être intéressant, je pense, en tant en tant que particulier, de se dire, moi je veux être OK par rapport à la loi, par rapport au droit d'auteur, etc., et donc de choisir ces systèmes-là pour ça, quoi. Ensuite, c'est des logiciels qui sont techniquement extrêmement intéressants. Alors, comme on en a justement, c'est des systèmes un peu ouverts où on nous laisse plus facilement regarder comment ça marche derrière, même sans parler de forcément lire le code source. On peut avoir énormément d'informations sur comment ça marche et bricoler des choses et tout. Donc, quand on est un peu intéressé par ça, par la technique, c'est extrêmement intéressant. Donc, là, on cite un certain nombre de raisons. Je ne dis pas que tout le monde va être intéressé partout, mais ça peut être une raison qui peut vous intéresser.
Techniquement intéressant, c'est aussi en termes de sécurité. Oui. En termes de ce qui est virus, logiciel espion, etc., au jour d'aujourd'hui, les systèmes à base de logiciels libres sont très sympathiques à utiliser, puisqu'il n'y a pas tous ces problèmes de virus, de logiciel espion, de publicité, etc. Ça, c'est aussi un argument intéressant, qui est un argument purement technique, mais qui peut se révéler être un argument qui est assez intéressant.
Il y a effectivement moins de problèmes dans le logiciel libre parce qu'il n'y a pas les contraintes marketing. C'est-à-dire que le manque de sécurité de certains systèmes propriétaires sont liés à des contraintes marketing souvent, qu'on ne retrouve pas forcément dans le logiciel libre. Donc voilà une raison entre autres. Alors, il y a le fait aussi d'être vraiment impliqué dans un logiciel libre en fait finalement. Le logiciel libre, il appartient un peu à tout le monde, c'est tout le monde qui peut le faire. Et donc finalement, on n'est plus. On peut s'impliquer réellement dans la diffusion de logiciels, dans la création de logiciels, dans cette modification de logiciels, et pas être simplement un acheteur. D'ailleurs, ça se retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une vraie entraide communautaire sur l'utilisation des logiciels. On trouve énormément de sites ou avec des tutoriels sur comment faire ci, comment faire ça, comment utiliser. Les gens s'entraident beaucoup au niveau du logiciel libre. C'est vrai que... voilà. D'accord.
La communautaire, c'est dans, faut ouais. apprendre dans le bon sens du terme, parce qu'en français, on connote parfois le terme communauté dans un sens fermé, un peu sectaire, etc. Là, c'est le sens positif du terme qu'il faut comprendre. C'est un ensemble de personnes qui partagent des intérêts et qui échangent des informations. Voilà, c'est vraiment dans le sens positif du terme qu'il faut le comprendre. Un autre domaine où le logiciel libre est particulièrement intéressant et intéresse pas mal de gens, c'est dans le domaine des pays, ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Alors pourquoi c'est intéressant ?
Parce que plutôt que ces pays en voie de développement achètent ou se fassent donner gratuitement des logiciels propriétaires qui sont conçus et fabriqués à l'étranger, ils peuvent utiliser des logiciels libres. Alors ils peuvent les étudier, ça permet de se former des ingénieurs localement, ça permet de créer des entreprises locales qui vont adapter ces logiciels libres aux besoins qui existent dans les pays concernés. Ça va permettre donc d'embaucher des gens, etc. Ça va permettre au pays de se développer technologiquement de manière indépendante, de ne pas être soumis à une entreprise étrangère au niveau du développement technologique. Donc, je vais faire un petit peu parler un peu de Microsoft, mais c'est vrai qu'ils agissent pas mal dans les pays en voie de développement, en donnant des licences, ils signent des accords avec l'UNESCO, etc. Ça leur permet quoi ? Ça leur permet de donner gratuitement des logiciels, en sachant très bien que quand le pays va se développer, si les gens sont habitués à utiliser un certain système, ils vont continuer à utiliser le même, et vont être rentrés dans le système, et donc vont un jour acheter réellement les licences, etc. Donc les logiciels libres, c'est un moyen d'être, de ne pas être dépendant des entreprises, de se créer chez soi des entreprises de services qui vont adapter, modifier le logiciel, de former des ingénieurs, des gens qui vont pouvoir utiliser ce logiciel de manière indépendante. Donc ça, c'est intéressant sur le point, dans le point de vue du développement. Il y a un certain nombre de pays, notamment asiatiques, qui l'ont très bien compris et qui utilisent de manière relativement importante le logiciel libre. Alors, un autre domaine où le logiciel libre est très intéressant, et c'est même pas là où il a démarré, mais disons qu'on a parlé de l'intérêt pour l'utilisateur. C'est assez récent que le logiciel libre intéresse le plus grand nombre. Ça a surtout été utilisé depuis de nombreuses années dans les entreprises. Alors pourquoi ? Toujours la même chose, indépendance vis-à-vis des éditeurs. Si vous avez un logiciel et qu'il y a un bug dedans, vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'éditeur réagisse pour le corriger. Vous pouvez le faire vous-même. Ça, c'est une importance pour les entreprises. Ça permet de contrôler son outil logiciel, de savoir ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'il fonctionne, de vérifier qu'il n'y a pas de code malveillant, ou des choses comme ça. Ça peut être important en termes de sécurité. On bénéficie de la réactivité communautaire. Donc là, on parlera un peu de ce qui est communauté et processus de développement du logiciel libre. Ça va rejoindre l'aspect fait de l'Internet qui a lieu en ce moment. Mais en gros, il y a de nombreuses personnes qui contribuent au logiciel libre. Et ce qui fait que, globalement, quand il y a un problème, notamment de sécurité ou une erreur dans le logiciel, c'est corrigé très rapidement. Alors quand je dis très rapidement, c'est 24 heures, 48 heures ou quelques jours. C'est vraiment très rapide. Donc là encore, on n'est pas obligé d'attendre que l'éditeur qui a lui écrit le logiciel décide de publier un correctif. On va, grâce à la communauté de développeurs qui se constituent autour d'un logiciel libre, bénéficier rapidement de correctifs. Ça, ça a une importance et c'est réellement utilisé par les entreprises. Fiabilité et sécurité, bon, on en a déjà un petit peu parlé. Puis effectivement, le fait qu'il y ait ces correctifs rapides, c'est utile d'un point de vue sécurité. Parce que la sécurité absolue n'étant pas possible, il y a forcément des erreurs dans un logiciel. Ce qui compte avant tout, c'est que quand il y a une erreur, ce soit publié rapidement et qu'un correctif soit disponible rapidement. Et en ce sens, l'ouverture du logiciel libre est très intéressante. Et après, pour les entreprises qui font du logiciel, là c'est plutôt pour les utilisateurs, là c'est pour ceux qui font du logiciel, avoir un logiciel libre, ça permet de donner à son client toutes les garanties d'indépendance. Parce que si jamais on vend un logiciel propriétaire, une fois qu'on l'a vendu à un client, il est un petit peu attaché à nous avec des cordes. Si tout son système informatique de son entreprise repose sur ce logiciel, après on peut appliquer les prix qu'on veut, on peut doubler, tripler les prix, ne pas corriger dans les temps les problèmes, etc. On est complètement lié à ce fournisseur. Alors que si ce fournisseur de logiciel vous donne le code source, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller voir une autre entreprise, moyennant finance évidemment, tout ça se paye, donc le logiciel libre n'est pas forcément gratuit, mais vous avez la possibilité d'aller voir une autre entreprise qui, elle, va vous reprendre ce logiciel, vous faire les correctifs dont vous avez besoin, etc. etc. Donc pour l'entreprise productrice de logiciels, ça, c'est aussi intéressant vis-à-vis des clients. Oui.
Alors, il y a un autre domaine où les logiciels libres sont extrêmement intéressants, c'est dans tout ce qui est éducation, et l'administration. Là, je pense que c'est vraiment très très important. Déjà, par rapport aux valeurs que ça véhicule, donc c'est vrai que c'est intéressant au niveau de l'éducation nationale, par exemple. Ensuite, ça élimine un centre de discrimination, donc comme justement on peut redistribuer gratuitement. Alors c'est sûr que ça ne va pas distribuer des ordinateurs aux gens, le matériel, ça ne règle pas le problème. Mais au niveau logiciel, au moins, ça règle sans doute le problème. C'est-à-dire si un prof fait un cours sur un certain logiciel, et que c'est un logiciel libre, n'importe quel élève peut repartir avec le CD, le machin, chez lui, et l'utiliser chez lui sans que ça coûte un sou à ses parents. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les logiciels propriétaires. Il y a un certain nombre de gens qui sont formés sur les logiciels propriétaires et qui n'ont pas les moyens de les acheter pour eux. Donc ça, c'est un point important. Donc ça leur donne la possibilité de travailler chez soi aussi. Ensuite, pour l'État, c'est assez intéressant. L'État est quand même une grosse machine qui peut avoir quelques informaticiens, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'adapter les logiciels à ses besoins. Comme c'est un logiciel libre, il a le code source. S'il a des besoins un peu particuliers, il peut adapter les logiciels. Alors qu'un logiciel propriétaire, ça va être plus compliqué. Souvent, c'est beaucoup moins coûteux aussi d'utiliser des logiciels libres. C'est pas forcément totalement gratuit pour l'État, parce que l'État va prendre un certain nombre de garanties, va travailler des sociétés qui vont lui garantir un certain nombre de choses, mais ça sera nettement moins cher que d'acheter les licences de logiciels propriétaires.
Ensuite, il y a un certain nombre de développements, ça existe, de logiciels libres qui ont été faits directement sous le contrôle de l'État avec des financements publics. Parce qu'effectivement, quand on a un besoin un peu particulier, on peut développer, si on ne trouve pas dans le logiciel libre qui existe, on développe soi-même le logiciel libre qui va bien. Et à partir du moment où l'État met de l'argent pour développer un logiciel, c'est quand même assez intéressant que n'importe quel citoyen, n'importe qui, n'importe quelle entreprise puisse en profiter. Puisqu'il a été payé par les impôts, c'est pas la peine de le repayer une deuxième fois. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Et il y a un aspect encore plus important, peut-être le plus important de tous, qui est la pérennité des données. C'est-à-dire que un logiciel, quand on l'utilise, il va sauvegarder les données. Ces données sont sauvegardées d'une certaine manière, qui est assez opaque généralement. Il se trouve que si jamais on veut changer de logiciel, le nouveau logiciel, il y a intérêt à relire les anciennes données. D'accord ? Mais si vous achetez un logiciel propriétaire A et que vous voulez changer pour un logiciel propriétaire B, il y a assez peu de chances pour que l'éditeur du logiciel A laisse l'éditeur du logiciel B lire ses formats. Parce que s'il laisse faire ça, ça veut dire qu'il laisse partir les gens vers la concurrence. Donc il va chercher un maximum à ce que son format soit opaque, ses données soient opaques. Et alors là, le problème, c'est que du coup, on est complètement enfermé vis-à-vis d'un éditeur. Une fois qu'on a commencé à utiliser un logiciel qui s'est mis à stocker des données, on a le choix entre mettre les données à la poubelle ou bien pouvoir changer de échanger de logiciel, ou bien garder le logiciel qu'on avait avant. Or, avec les logiciels libres, il y a cette idée d'ouverture. C'est-à-dire que non seulement le logiciel libre, mais généralement, ça utilise des formats qui sont eux-mêmes ouverts, qui ne sont pas du tout opaques. Et les logiciels libres, ils s'en fichent un peu de cette histoire de concurrence. Au contraire, ils collaborent entre eux. Et ça veut dire qu'on peut très facilement changer d'un logiciel libre pour un autre logiciel libre qui fait à peu près la même chose, et il sera capable de relire les données. Et ça, quand on est État, c'est extrêmement important. Quand on a les données, des données cruciales, on ne veut pas les perdre du jour au lendemain, sous prétexte que l'éditeur il a décidé que non, c'était plus possible ou quoi que ce soit. Donc les données, elles nous appartiennent. Donc un logiciel ne doit pas nous empêcher de lire nos propres données. Et ça, c'est le logiciel libre, c'est beaucoup plus de garanties à ce niveau-là que le logiciel propriétaire.
Moi, je vais juste revenir sur le premier point, parce que à mon goût, t'es passé un peu vite, tellement je trouve ça capital. Le rôle de l'enseignement, c'est de transmettre de la connaissance, de transmettre tout ce qu'on sait aux élèves, aux étudiants. Donc le but, c'est de partager cette connaissance. Et dans cet objectif, dans ces valeurs de transmission des connaissances, le logiciel libre, dans l'idée, ça semble quand même être plus adapté d'utiliser ce logiciel libre qui est lui aussi conçu dans une optique de partage, de collaboration, plutôt que du logiciel qui est conçu dans une optique de secret, de fermeture. Donc, pour moi, il y a vraiment corrélation entre l'idée les valeurs de l'enseignement public et l'idée globale du logiciel libre, quoi. Ce partage, cette diffusion des connaissances pour tous. Alors, on poursuit. Alors, pour un petit peu appuyer tout ça par des exemples concrets, alors, ce qu'on a dit, c'est quelque chose d'avéré, il y a des exemples, etc., pour les problèmes de sécurité, tout ces choses-là. C'est pas de la fantaisie. Pour l'État qui adopte des logiciels, ça se fait vraiment, ça existe. Donc, pour donner un exemple d'un État qui utilise des logiciels libres, là, on a choisi la Direction générale des impôts, qui va sûrement vous faire parvenir la petite feuille dans un mois ou deux. C'est ZDNet qui titrait il y a quelques temps abandon de la suite Microsoft Office, donc la suite bureautique, pour OpenOffice, qui est une suite bureautique libre, qui utilise notamment des formats ouverts, puisqu'on parlait de formats ouverts. Donc là, c'est 80 000 ordinateurs qui migrent de la suite bureautique propriétaire vers une suite bureautique libre. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, tout récent, le film Renaissance, qui est en ce moment au cinéma, je crois, a été réalisé sur des serveurs Linux. Donc là, il y a, 200 serveurs qui fonctionnent sous Linux qui ont été utilisés pour réaliser le calcul des images de ce film. Donc là, exemple d'entreprise qui utilise massivement des logiciels libres puisque ça a été choisi pour, comme il le disait, sa performance et la stabilité. Donc là, exemple d'utilisation, pourquoi technique. Le premier, c'était certainement le coût, la souplesse de déploiement qui a motivé les choix de la DGI. Ici, c'est plutôt l'aspect technique, performance, stabilité qui ont motivé l'éditeur. Et on pourrait renouveler les exemples comme ça pour tous les autres points qu'on a cités. Mais bon, voilà deux exemples un petit peu marquants.
Alors, donc là, on a présenté un peu le logiciel libre, ce que c'était, pourquoi on pouvait l'utiliser. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ça reste assez mystérieux finalement. Qui les fabrique ces logiciels? Pourquoi? Comment? Quel intérêt ils ont à faire ça plus ou moins gratuitement? En fait, les développeurs de logiciels libres, il y en a de différentes sortes. Donc, il y a d'abord des bénévoles. Alors, le bénévolat, c'est pas né d'hier, c'est pas né avec le logiciel libre, hein, ça existait avant. Donc, il n'y a pas plus de raison de se demander pourquoi il y a des bénévoles qui font du logiciel que de se demander pourquoi il y a des bénévoles qui font de l'humanitaire ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui font du logiciel libre. Alors, ces bénévoles, ça peut soit être des étudiants. Alors, les étudiants, c'est extrêmement intéressant qu'on est étudiant de faire du logiciel libre parce que c'est une vraie formation finalement. Il n'y a que en faisant du logiciel finalement qu'on apprend vraiment à en faire. Donc, il y a les cours aussi, ça compte, mais pouvoir se faire la main en faisant du logiciel, c'est extrêmement intéressant. Pouvoir étudier les logiciels qui existent, etc. Donc, le logiciel libre est très intéressant pour les étudiants. Deuxième catégorie de bénévoles qu'on peut avoir, c'est des gens qui ont effectivement cette connaissance de la programmation, donc qui sont des informaticiens professionnels et qui font du logiciel libre sur leur temps libre. Donc il y a énormément de gens qui font ça. Et finalement, ça peut être aussi n'importe qui, parce que même si on n'a pas de connaissance en programmation, on peut très bien aider à développer du logiciel libre. On verra peut-être un peu plus tard tout ce qu'on peut faire, mais... On peut faire des dessins, on peut ne serait-ce que donner son avis ou dire tiens ça serait bien qu'il y ait ça, traduire un logiciel dans une langue, tout ça c'est des choses qu'on peut faire sans être informaticien de manière bénévole. Il y a une autre catégorie de développeurs de logiciels libres qui vont être des salariés en fait. Donc ils sont salariés pour développer du logiciel libre. Alors on en trouve dans à peu près deux grands types d'entreprises entre guillemets. Il y a d'abord les laboratoires de recherche. Donc là, c'est pareil, hein, ça colle avec les valeurs de la recherche, etc. Et historiquement, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par des chercheurs et des salariés d'entreprise. Alors, pourquoi les entreprises iraient payer des gens pour faire un truc, un logiciel libre qui après peut être distribué gratuitement? Mais en fait, c'est quand même un calcul économique, c'est-à-dire qu'un logiciel libre, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre quelque chose qui existe et l'adapter à ses besoins. Donc peut-être qu'il y a un truc qui convient pour 90%, et il reste 10% du travail à faire. Donc si on prend un logiciel libre, on va faire les 10% qu'il faut faire, et puis après, comme on a vu avec la licence GPL, nous impose à ce qui était libre le reste, donc finalement, on a fait du logiciel libre. Mais si on fait du logiciel libre, c'est finalement parce qu'on a pu en utiliser aussi. Alors que si on voulait faire un système propriétaire, et on serait obligé de faire 2-0, donc on serait obligé de faire 100%. Donc plutôt que de payer 10 personnes, on n'en paye qu'une seule. Donc économiquement, c'est intéressant pour l'entreprise de faire du logiciel libre. C'est-à-dire que toutes ces notions de partage, de collaboration et tout, qu'il peut y avoir entre des individus, elles existent aussi entre les entreprises finalement. Une entreprise, beaucoup d'entreprises ont besoin d'informatique, pas en tant que produit à vendre, mais en tant qu'outil qui va leur servir à faire autre chose derrière. Donc pour elles, l'informatique, c'est pas le cœur de leur business en fait, c'est juste un outil. Et elles ont tout intérêt à collaborer entre elles pour développer les outils informatiques qui vont leur servir à faire leur business. Donc on retrouve le même schéma de partage et de collaboration au niveau des entreprises. Donc au total, ça fait énormément de développeurs de logiciels libres, des centaines de milliers, on peut évaluer ça à peu près à des centaines de milliers, qui tous ensemble collaborent. Donc c'est une grosse force de travail.
Donc comment ça marche le développement du logiciel libre? Alors le point important, c'est ce qu'on appelle le modèle du bazar. C'est un auteur célèbre de logiciels libres qui a résumé un petit peu l'organisation du développement par ce terme, bazar. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un chef, même si Richard Stallman, par exemple, il y a l'origine. Aujourd'hui, c'est pas lui qui développe tous les logiciels libres. Il est à la tête de pas grand chose. Bref, il n'y a pas de chef qui dirige tout ce qui se passe dans le monde du logiciel libre. Dans le monde du logiciel libre, c'est tout un tas de projets indépendants, de gens, donc des bénévoles, des salariés, qui se mettent ensemble et qui se disent nous on a besoin d'un logiciel qui fait ceci, on a besoin d'un logiciel qui fait cela, et hop, on se met ensemble et puis on le fait. Et ils travaillent ensemble, des gens partent, des gens rejoignent le projet, des gens l'améliorent, etc. Et donc c'est un fonctionnement assez informel, il n'y a pas de guide qui dirige tout ça. Si ce soir en rentrant chez vous, vous avez envie de créer un logiciel libre, hop, c'est parti, vous vous lancez. Vous trouvez deux bonhommes sur Internet qui veulent bien vous aider, et c'est parti. Alors malgré tout, c'est pas non plus organisé n'importe comment. En fait, il y a quand même une organisation qui se met en place au sein de chaque projet, qui est souvent basée sur la méritocratie, c'est-à-dire la personne qui est la plus compétente techniquement ou qui va réussir à regrouper le maximum de personnes autour de son projet, va se retrouver un peu leader, donc va un petit peu orienter le développement. Sachant qu'évidemment, étant donné que le code source est disponible, n'importe qui, s'il n'est pas d'accord, peut prendre le logiciel, en faire une copie et ensuite travailler lui-même dessus sur sa propre version. Donc là, il y a un petit peu des,
C'est au fil de l'eau, les gens se mettent d'accord pour travailler ensemble sur un projet et l'améliorent et le traduisent, etc. Puis de temps en temps, il y a des divisions qui naissent puisque des gens ne sont absolument pas d'accord sur des choix techniques, des choses comme ça, des divisions naissent. Et puis il y a des fois une version qui va gagner, qui va fonctionner, qui va réussir à avoir des utilisateurs, des contributeurs, puis une autre version qui ne va pas trouver suffisamment d'utilisateurs et puis qui va mourir. Et puis il y aura, et c'est ainsi. Les projets, comme c'est marqué en dessous, c'est un peu un écosystème de projets qui naissent, qui vivent, qui meurent, tout comme il y a des contributeurs qui partent, qui arrivent, qui sont plus ou moins disponibles, des choses comme ça. Et alors, ce qui est important, c'est que tout ce développement, il est centré autour d'Internet. Alors, on est dans le cadre de la fête de l'Internet, etc., et ça rentre vraiment bien dans le cadre, parce que le logiciel libre, c'est fait par des milliers de contributeurs qui sont éparpillés partout dans le monde. Et donc, pour collaborer, étant donné qu'ils ne peuvent pas se voir physiquement, toutes ces personnes, ils utilisent massivement Internet, mais vraiment très massivement. Donc, il y a tout un tas d'outils qui ont été développés. Alors, des sites web, le courrier électronique, les listes de diffusion, les wikis, pour employer un mot un peu barbare, des dépôts de code source qui permettent aux développeurs d'échanger ce fameux code source, d'échanger les nouvelles modifications. Bref, il y a tout un tas d'outils qui fonctionnent au-dessus d'Internet, et qui permettent à ces développeurs, à ces traducteurs, à ces graphistes, à ces musiciens de travailler ensemble, de se coordonner et de produire quelque chose qui fonctionne, qui est stable, qui est utilisé dans des entreprises, etc., etc., etc. Donc là, il y a vraiment une collaboration massive qui marche grâce au réseau des réseaux. Et ce qui est intéressant de voir aussi, au sujet d'Internet, c'est qu'Internet existe uniquement ou quasiment uniquement grâce au logiciel libre. Alors même si aujourd'hui, vous n'utilisez pas de logiciel libre sur votre ordinateur personnel, à partir du moment où vous allez consulter un site web, il y a à peu près 2 chances sur 3 que l'ordinateur qui est en face, qui stocke le site web que vous regardez, soit du logiciel libre. À peu près 2 chances sur 3. Si vous envoyez un mail, il va transiter par un certain nombre d'ordinateurs sur le réseau, et il y a de très très fortes chances que la plupart de ces machines utilisent du logiciel libre. Et en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel libre, ce sont les logiciels qui font fonctionner Internet. C'est l'infrastructure d'Internet est basée sur des logiciels libres. Pourquoi ? Parce que les logiciels libres, ils utilisent des formats ouverts, des protocoles ouverts, des méthodes de dialogue ouvertes. Et Internet, c'est ça. C'est basé seulement sur des protocoles ouverts qui permettent à n'importe quel ordinateur de se connecter, quel que soit le système d'exploitation qu'il utilise, quelle que soit sa puissance, la taille de son écran, n'importe quoi. Les protocoles sont ouverts, n'importe qui peut s'y connecter. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont tenté de créer leur réseau à elles, qui utilisent un protocole fermé, et ça n'a jamais décollé, ça n'a jamais fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est l'ouverture, la possibilité pour tous de se connecter à ce réseau, d'utiliser le système qu'on a envie d'utiliser. Donc là, c'est assez intéressant de voir la synergie qu'il y a entre Internet et les logiciels libres. Les logiciels libres utilisent Internet pour être développés, et en même temps, Internet repose massivement sur du logiciel libre.